L'émission qui va suivre est une rediffusion. Restez à l'écoute.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
It's enslavement. It's debt slavery. They want everybody to go to college because they know that.
C'est de l'esclavage. On est enchaîné à notre dette. Ils veulent que tout le monde aille à l'université parce que, justement, tout le monde ne peut pas se le permettre. Mais comme c'est la seule manière d'accéder au rêve américain, la plupart des étudiants sont obligés de s'endetter.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, direction les États-Unis, dans le gouffre de la dette des étudiants américains. Ce n'est plus une bulle, c'est une bombe. En 2012, cette dette a dépassé la barre des 1000 milliards de dollars. Et depuis, ce seuil symbolique, astronomique, ne cesse de battre ses propres records. Cette année, la dette étudiante avoisine 1300 milliards de dollars. Un chiffre irréel, mais un cauchemar quotidien pour deux étudiants sur trois qui finissent leurs études endettés jusqu'au cou et qui doivent en moyenne 27 000 dollars. Barack et Michelle Obama eux-mêmes n'ont fini de rembourser leur emprunt étudiant qu'en 2004. Aller à l'université coûte toujours plus cher. Les frais d'inscription augmentent de 8% par an depuis les années 80. C'est bien au-dessus de l'inflation. Et d'ailleurs, l'enseignement supérieur est le secteur dont le coût a le plus grimpé aux États-Unis. Depuis les années 70, s'endetter en fait pour aller à la fac, c'était culturellement accepter, posséder sa maison et un diplôme, deux piliers du rêve américain pour tous. Alors depuis, comment le piège de la dette s'est-il refermé sur les étudiants américains? À qui profite cette dette? Quelles sont et seront les conséquences économiques et sociales? Surendettement des étudiants, l'envers du rêve américain, c'est un reportage de Cerise Maréchaux. Bonjour Cerise.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez enquêté justement au Texas et vous avez rencontré de nombreux étudiants dans la galère.
Oui, et c'est au sud de cet état, dans la ville de McAllen, près de la frontière mexicaine, que j'ai rencontré Brooke, 27 ans. Alors quand je lui ai demandé si elle voulait témoigner, elle a d'abord ouvert de grands yeux et retenu son souffle, comme si le sujet était trop énorme pour mettre des mots dessus, presque tabou. Et puis finalement, elle a insisté pour s'exprimer. Elle est petite, blonde, avec des lunettes un peu sérieuses, sur un visage jeune et très souriant.
Et Brooke, qu'a-t-elle fait exactement comme étude?
Alors elle a suivi des études de musique avant de partir au Mexique pour enseigner l'anglais. Et de retour au Texas, elle a changé de voie et maintenant elle travaille 12 heures par jour dans une ONG qui aide les habitants des bidonvilles dans la région. Un parcours sinueux à l'image de nombreux jeunes Américains.
Des bidonvilles au Texas.
Le Texas a beau être le deuxième état le plus riche, on se trouve en fait dans le comté le plus pauvre des États-Unis. Et donc Brooke m'a donné rendez-vous un soir après le travail sur un parking de bar, un peu nerveuse. Elle est venue avec son mari, Pablo, et son dernier relevé de remboursement bancaire.
Ma dette étudiante est vraiment très lourde. Je ne sais pas combien je dois, mais c'est marqué là, je vais vous dire ça. C'est mon dernier relevé de prêt.
Vous le recevez régulièrement ?
Tous les mois. J'ai repoussé le début des paiements autant que possible, mais ces derniers mois, j'ai dû commencer à rembourser pour de vrai. Donc pour l'instant, j'ai remboursé une toute petite partie. Le montant mensuel, c'est 297,15 dollars. En gros, 300 dollars par mois. Et le total, 12 662,77 dollars d'une part, et aussi 13 000 dollars. Donc je dois environ 26 000 dollars.
Vous êtes dans la moyenne.
Oui, c'est possible, mais ce n'est pas tout. Ma mère aussi a payé une grosse partie de mon éducation. Je viens de lui envoyer un message. D'après sa réponse, elle a emprunté des dizaines de milliers de dollars. Elle me dit, j'ai remboursé 70 000 dollars et je dois encore 80 000. J'ai jusqu'à 2021 pour tout rembourser et je ne regrette pas le moindre centime. Tu en vaux la peine, deux points d'exclamation.
Votre mari est à côté de vous, là, à l'instant, et en fait, il ne connaissait pas le montant de votre dette étudiante.
Oui, c'est vrai, on n'en a jamais parlé.
Non,
je ne savais pas que ta mère avait fait ça pour toi.
Je ne lui avais même jamais demandé jusqu'à aujourd'hui. Et puis je me suis dit que c'était important de savoir ce qu'elle a sacrifié pour moi. En plus, ma mère était déjà très endettée avant que j'aille à la fac. 70 000 dollars. Elle doit encore 80 000.
That's why... My mom has worked two jobs for a long time.
C'est pour ça qu'elle a deux boulots, depuis au moins 10 ans. Elle est prof d'anglais deuxième langue et à côté, elle est monitrice d'auto-école. Et elle a ouvert sa propre école de conduite. D'ailleurs, c'est là d'où je viens. Je donne des cours là-bas pour l'aider, après le travail. C'est pour ça qu'elle a ouvert cette auto-école, pour pouvoir rembourser ses emprunts.
Pablo, comment vous sentez-vous à l'annonce du montant de la dette étudiante de Brooke, votre épouse ?
J'avoue que ça fait peur, parce que la situation est difficile. Moi, je viens juste d'arriver du Mexique, et chaque jour qui passe, sans que je puisse travailler pour l'aider financièrement, ça me stresse. Et là, je découvre ce montant.
Et oui, 80 000 dollars, c'est énorme. Mais on peut souligner quand même que Brooke était dans une fac privée et puis un master à la prestigieuse université Columbia à New York, un cursus plutôt luxueux, Cerise.
C'est vrai, mais l'explosion des frais de scolarité concerne même les universités publiques. Ils ont été multipliés par 6 en 25 ans. C'est vraiment une dérive inquiétante.
Il faut préciser que depuis la crise de 2008 et la récession, les États ont fait d'énormes coupes budgétaires dans leurs subventions aux facs publiques qui compensent en augmentant évidemment les prix d'inscription.
Oui, à tel point que les aides fédérales pour les étudiants les plus modestes sont devenues minimes par rapport à la somme qu'ils doivent rassembler pour payer les frais universitaires. Par exemple, en 2012, la quasi-totalité des étudiants boursiers devaient quand même emprunter 31 000 dollars en moyenne pour aller à la fac alors qu'ils étaient boursiers. Brooke a eu la chance que sa mère puisse l'aider, mais beaucoup doivent se débrouiller seuls, comme Chris Carino, une jeune femme de 24 ans, métisse, brune, toute fine, l'air grave à la cafétéria de son community college à Austin, capitale du Texas.
Je suis allée à l'université et ça m'a coûté dans les 30 000 dollars. Franchement, c'est effrayant. Au lycée, quand on prend tous ces emprunts, on nous dit de ne pas nous inquiéter, qu'on gagnera beaucoup d'argent après notre diplôme et qu'on pourra rembourser rapidement. Donc c'est ce qu'on fait, on a 18 ans et on enchaîne notre vie à tous ces prêts. Moi, personnellement, je n'ai pas eu mon diplôme, donc je ne gagne pas bien ma vie. Mais je continue de payer ces emprunts.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je bossais 30 heures par semaine comme serveuse pendant toute la fac pour payer mon loyer, mon prêt voiture, mes livres. C'était dans un bar sportif, donc je ne finissais jamais avant 3 heures du matin. Et le lendemain, j'allais en cours à 8h ou 9h. Je m'endormais en classe parce que je manquais de sommeil, je me nourrissais pas bien, j'étais très stressée. J'ai eu des mauvais résultats, on m'a retiré l'aide financière de l'université et je n'ai pas eu mon diplôme. Si on n'a pas les notes qu'ils veulent, on se fait d'abord suspendre, puis virer de l'université. Parce qu'ils veulent maintenir des bons taux de réussite. J'ai reçu une lettre, ça a été très dur, ça m'a dévastée. Ça m'a rendue très sceptique vis-à-vis du gouvernement et du fait d'emprunter. Quand je repense à l'université et comment j'ai été poussée à m'endetter autant, ça me dégoûte. J'en ai mal au ventre. Mais je pense que ça m'a forgé le caractère, parce que j'ai appris à bosser très dur.
Vous allez rembourser pendant combien de temps ?
J'en sais rien. Au moins 10 ans. Je suis même pas sûre de tout rembourser un jour.
Vos parents, ils font quoi ?
Mon père est ingénieur et ma mère a eu toutes sortes de boulots comme gérante de boutique, etc. Ils ne m'aident pas du tout à payer mes études. Ils n'ont pas les moyens de débourser 5 000 dollars tous les 3 mois. Je suis la première de ma famille à aller à l'université. Donc je pense qu'ils ne comprennent pas bien comment le système fonctionne. Et ils n'ont jamais économisé pour mes études supérieures. Ils vivent au jour le jour.
Je m'appelle Josué Ramirez et j'ai environ 40 000 dollars de dette étudiante. J'ai des prêts à mon nom et d'autres au nom de mes parents, mais en réalité, j'ai deux emprunts à rembourser parce que, évidemment, je ne vais pas laisser mon père, un ouvrier pauvre, payer mes études. Donc, c'est moi qui rembourse cette dette. Et en ce moment, j'ai du retard dans mes paiements, donc ça a un impact négatif sur sa cote de solvabilité.
Ça veut dire qu'il a moins de marge pour emprunter à l'avenir ?
Oui, mes défauts de paiement se répercutent sur son taux d'endettement qui était très bon jusqu'ici. Je dois garder ça à l'esprit parce que mes jeunes frères aussi veulent aller à l'université et eux aussi, ils ont besoin que mon père puisse emprunter de l'argent pour les aider.
Donc vous êtes en retard dans votre échéancier de remboursement ?
Oui, j'ai environ 4 mois de retard. J'ai arrêté à la période de Noël, mais c'est aussi ma décision personnelle de suspendre les remboursements pour me constituer un matelas de sécurité et mettre des économies sur un compte épargne. Quand j'aurai mis de l'argent de côté, je reprendrai les paiements. Mais vraiment, tout cet argent qu'on verse pour rembourser les emprunts étudiants, ça nous empêche d'épargner.
Si vous remboursiez votre emprunt étudiant bien à l'heure chaque mois, cela vous mettrait dans une position vulnérable par rapport au moindre accident de la vie ?
Il ne me resterait pas un sou. Déjà que je m'inquiète de garder un toit au-dessus de ma tête, qu'est-ce qui se passerait si je tombais malade, si j'avais un accident de voiture, si ma voiture tombait en panne? C'est ça qui m'inquiète le plus, c'est ça ma priorité, pas de rembourser mes prêts. Je sais que ça va finir par me retomber dessus de ne pas payer, parce qu'avec les taux d'intérêt qui augmentent tout le temps, ma dette va s'accumuler, mais j'assumerai les conséquences.
Je m'appelle Ryan Bishop, j'ai 28 ans et je suis manager chez HP. Tous mes employeurs ont demandé à vérifier ma situation financière avant de pouvoir être embauché. Certaines personnes ne trouvent même pas de travail parce qu'elles ne sont pas solvables.
Quel est le montant de la dette étudiante que vous devez ?
Environ 11 000 $. Ma dette initiale était de 15 000 $.
Donc ça, c'est plutôt un montant au-dessous de la moyenne ?
Oui, très en dessous de la moyenne. J'ai eu beaucoup de chance, parce que mes parents ont investi dès ma naissance pour ma scolarité. Donc quand j'ai eu mon bac à 18 ans et que j'ai été accepté dans une université publique au Texas, mes études supérieures étaient entièrement financées pour 4 ans. Mais j'ai fini par étudier une 5e année, comme la plupart d'entre nous, parce que j'ai suivi un double cursus en psychologie et en système informatique de gestion à l'école de commerce de l'université.
Donc vos parents ont payé une partie de votre éducation et vous avez dû payer le reste ?
Oui, même si mes parents avaient les moyens, ils m'ont demandé de me débrouiller pour cette dernière année. Je ne peux pas imaginer ce que ça aurait donné si j'avais dû payer toute ma scolarité tout seul. 120 000 $, c'est énorme. Ma dette est de 15 000 $, mais ça représente un seul semestre.
Quel prêt avez-vous contracté ?
Ma mère travaillait à la banque Wells Fargo, donc j'ai pris un prêt chez eux. De toute façon, je n'avais pas droit aux bourses de l'État.
Donc c'était un emprunt privé.
Oui, c'est ça. Et heureusement, je rembourse juste 120 $ par mois, donc je m'en sors bien. Mais ça fait déjà depuis 2011 que je paie ça chaque mois et que je dois encore 11 000 $. Donc c'est évident que mon argent va surtout dans les intérêts.
Et alors, Brooke, quel est le montant de votre taux d'intérêt ?
Alors, c'est 6,125%.
Vous pensez qu'il va vous falloir combien de temps pour rembourser cette dette ?
10 ans et demi, peut-être ? Je gagne 2 000 $ par mois et je n'ai jamais gagné plus que ça. Je pourrais continuer à repousser les paiements parce qu'avec ce salaire, c'est dur de rembourser 300 $ chaque mois.
Quelles seraient les conséquences ?
Les intérêts augmentent sans arrêt. Donc non, c'est maintenant ou jamais. Il faut que je paye cette dette.
Ça ne ferait qu'empirer les choses ?
C'est clair, je vois bien déjà comment ça augmente. Je ne peux pas continuer à m'enfoncer.
Brooke rembourse avec un taux d'intérêt de plus de 6%. En 2016, c'est un minimum et ce taux augmente chaque année. En 2013, le Congrès a accepté de plafonner ses taux d'intérêt à 10% pour emprunter au gouvernement. Mais dans le privé, même si les taux de base affichés sont plus compétitifs, donc autour de 5-6%, ils sont variables et peuvent faire exploser le compteur sans prévenir.
Et par ailleurs, Brooke a raison de commencer à rembourser parce que se retrouver en défaut de paiement sur sa dette étudiante, c'est-à-dire être en retard sur ses échéances depuis au moins 4 mois consécutifs, ça peut être très très lourd de conséquences.
Oui, c'est très vite arrivé, ça concerne de plus en plus d'Américains. En 2016, près de 12% des emprunteurs, plus de 1 sur 10, ont ce statut de défaut de paiement, defaulting ou delinquency. En anglais, rien que le terme est stigmatisant, on vous colle cette étiquette. Et oui, les conséquences sont lourdes. Pour commencer, la dette étudiante est la seule qui ne peut être effacée, même en cas de banqueroute. Pour se rembourser, l'État peut faire des saisies sur salaire, sur les trop perçus d'impôts et même sur des versements retraite. Le défaut de paiement reste inscrit pendant 7 ans dans votre dossier bancaire et ça peut vous empêcher de faire un emprunt immobilier ou automobile. Cela peut même vous priver d'aide sociale fédérale ou encore vous empêcher de renouveler votre licence professionnelle pour de nombreux métiers. Bref, vous êtes piégé.
Et des cabinets d'avocats se sont même spécialisés, Cerise, dans le surendettement étudiant. On peut trouver sur Internet toute une foire de conseils pour éviter d'atterrir évidemment dans cette impasse terrifiante.
Oui, et pourtant Emmanuel, le diplôme universitaire reste crucial aux États-Unis car sans lui, on a 2 fois moins de chances de trouver un emploi. Donc, sans surprise, les familles restent prêtes à faire d'énormes sacrifices, comme nous le rappelle Brooke Lissy.
Vous savez, mes parents étaient pauvres, mais ils ont eu des bons boulots. Mon père a travaillé sur une plateforme pétrolière et il était très bien payé. Mais il a été licencié et maintenant il travaille chez un prêteur sur gage, donc il gagne beaucoup moins. Mais pour lui, toutes ces années, il a travaillé si dur, à tel point que son corps en est détruit.
Tout le temps, il souffre tout le temps.
Il souffre et moi je suis le fruit de tout ce labeur. Et qu'est-ce que j'ai fait de tous ces efforts? Il voulait tout pour moi. Surtout, il voulait que je n'aie jamais à travailler aussi dur que sur une plateforme pétrolière. Il voulait que je puisse faire ce que je voulais. Et moi, ben, j'ai choisi la musique. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a pris d'étudier la musique? Qu'est-ce que j'avais dans la tête en allant travailler dans une ONG?
Mon beau-père, ça le met vraiment en colère de voir qu'au lieu de trouver le meilleur travail, tu es payé comme les poules.
Oui, mon père a grandi à la campagne. Donc pour lui, ça veut dire que je suis payée une misère.
Est-ce que vous aimez votre travail?
Oui, j'aime vraiment ce que je fais. J'ai l'impression d'être utile. Mais il y a cette dette qui s'accumule et ça me met la pression. Je suis coincée. Je me sens perdue. 100 000 dollars de dette. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment peut-on ne serait-ce que concevoir combien d'argent ça représente? Je n'y arrive pas. Ça me dépasse. Je ne trouve même pas les mots. Je n'arrive même pas à me rendre vraiment compte des conséquences de tout ça.
À votre avis, quel impact cette situation peut avoir sur votre couple?
On ne peut toujours pas être un vrai couple marié. On vit chez mes parents et sincèrement, on n'a pas les moyens de déménager. On veut avoir une famille, on veut commencer notre vie et on ne peut pas. Avec une telle dette, comment puis-je imaginer avoir un enfant? Je ne gagne pas assez d'argent pour payer un loyer, deux voitures.
Et il y a des parents qui commencent à économiser pour les études supérieures de leur enfant avant même la naissance de leur enfant.
Oui, d'ailleurs ma mère tout à l'heure m'a dit « Surtout ne dis pas que... Enfin, je suis désolée de ne pas avoir économisé quand tu étais bébé. Je suis désolée d'être une mauvaise mère. » Et je lui ai dit « Mais non, enfin, tu n'es pas une mauvaise mère. Tu as fait tout ton possible et j'aimerais pouvoir en faire autant avec mes futurs enfants, mais... »
J'ai l'impression que ça n'arrivera jamais.
Cerise Maréchaux, des histoires comme celle-là, il y en a partout aux États-Unis.
Oui, Emmanuel, c'est très répandu, cette culpabilité, cette honte, le sentiment de ne pas pouvoir avancer dans la vie. Voilà ce que vivent beaucoup de jeunes Américains. Toujours à McAllen, dans le sud du Texas, on retrouve Josué Ramirez, ce fils d'ouvrier mexicain, arrivé aux États-Unis quand il était petit. C'est le premier de sa famille à avoir obtenu un diplôme universitaire, ça lui a coûté 40 000 dollars. Aujourd'hui, il est co-directeur d'une ONG de logement social.
Donc quand même, on peut parler d'une belle progression.
Oui, et pourtant, comme Brooke, lui aussi se sent bloqué dans la vie.
It's ironic. I'm incurring more debt by trying to...
Oui, c'est clair, c'est ironique. Je creuse ma dette parce que j'essaie de me faire un matelas de sécurité. C'est un cercle vicieux et pour moi, c'est destiné à maintenir les structures de pouvoir en place. Il n'y a plus de classe moyenne. On était censé grimper dans l'échelle sociale grâce aux études supérieures, mais on n'y arrive pas à cause du surendettement. On a des diplômes, mais on ne s'élève plus socialement parce que pour ça, il faut de la richesse et on nous en a privés à travers la dette.
Josué a un sentiment de complot de la finance mondiale contre les classes moyennes. Ça en dit long aussi sur la colère sociale de ces jeunes.
Ah oui, a raison. Comme dit Josué, la classe moyenne stagne et en dessous d'elle, les personnes déjà pauvres s'enfoncent encore plus. Plus de la moitié des détenteurs de cette dette étudiante sont les 25% les plus pauvres des États-Unis.
Restez avec nous pour la suite du reportage sur le surendettement des étudiants américains. On se retrouve dans un peu plus de 3 minutes, juste après le flash.
L'émission qui va suivre est une rediffusion. Restez à l'écoute.
Ready for college? Don't forget, you'll need a new laptop, textbooks, and lots of other stuff. Which means you might also need more money.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez. Surendettement des étudiants, l'envers du rêve américain. C'est un reportage de Cerise Maréchaux chez 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, 43 millions de personnes doivent plus de 1000 milliards de dollars en emprunts étudiants. Très exactement, 1200 milliards de dollars. Ce montant a triplé en 10 ans. Le coût pour une éducation supérieure a explosé de 1200% en 30 ans. Et l'escalade continue. Les diplômés de 2015 croulent en moyenne sous des dettes étudiantes de 35 000 dollars chacun, 37 000 même pour ceux de 2016. Cerise Maréchaux, vous avez rencontré de nombreux étudiants. Tous ces chiffres, même aberrants, cachent en fait d'énormes inégalités, notamment un vrai problème racial.
Oui Emmanuel, et ce sont les étudiants noirs américains qui s'endettent le plus. Selon une étude de 2016, ils contractent des prêts en moyenne de 8 000 dollars plus chers que ceux des étudiants blancs. Ils trouvent globalement moins de soutien financier dans leur famille et même une fois diplômés, rendez-vous compte, ils ont deux fois moins de chances de trouver un emploi que les autres. Leur taux de chômage après la fac est de 12% contre environ 5-6% pour les autres. Ils sont aussi davantage susceptibles d'aller dans des écoles privées non reconnues, médiocres mais très coûteuses. Et les Noirs américains sont aussi 4 fois plus touchés par le défaut de paiement par rapport aux Blancs, avec toutes les conséquences désastreuses que ça implique.
On l'a vu en première partie d'émission. Alors pourtant, c'est bien au nom d'une vie meilleure que les diplômes s'arrachent à prix d'or. L'enseignement supérieur est devenu un business très juteux, même dans les universités publiques. Nous repartons au Texas pour retrouver Ryan Bishop, ingénieur chez le géant informatique Hewlett-Packard à Austin. Il a été témoin de ces dérives.
Quand j'étais à l'université du Texas, j'avais un petit boulot au service du développement où ils gèrent les fonds de dotation. Je voyais toutes ces lettres de remerciement envers les donateurs qui alignaient des chèques de 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 dollars. Après, les bénéfices qui découlaient de ces investissements étaient reversés dans les infrastructures de l'université. Mais ces fonds ne servaient pas à subventionner la scolarité des étudiants. Non, cet argent servait à installer des écrans plats dans le foyer des étudiants, équiper les dortoirs de la technologie dernier cri, construire un bowling. Ils ont mis tout leur fric dans un stade absolument énorme, sur 3 étages, avec restaurants et plein de choses encore. Pourquoi tous ces développements ne servent-ils pas réellement les étudiants pour les aider à payer leur scolarité, qui d'ailleurs n'a jamais cessé d'augmenter durant toutes les années où j'étais là-bas?
Vous avez le sentiment que l'université du Texas, à Austin où vous étiez, se comportait davantage comme une grosse entreprise, comme une multinationale, au service d'intérêts privés plutôt qu'au service d'une meilleure éducation pour tous?
Exactement. J'ai eu le sentiment que l'université du Texas voulait améliorer sa réputation, ajouter du glam et des paillettes comme une école d'élite pour attirer encore et toujours plus de monde. C'est déjà la plus grande fac du pays avec un campus de 16 hectares. Et ils essaient de s'agrandir pour accueillir encore plus d'étudiants et leur faire payer toujours plus cher chaque année pour leur scolarité.
Donc un comportement spéculatif ?
Oui, spéculatif, comme un conglomérat de multinationales avec des filiales qui portent des noms différents. Mais en fait, derrière, c'est un seul et même grand groupe. Ça donnait vraiment cette impression avec tous leurs partenariats, leurs sponsors, leurs événements et festivals. Mais alors, pourquoi est-ce que les frais de scolarité continuent d'augmenter s'il y a toujours plus d'étudiants? Surtout quand on regarde le nombre de professeurs par étudiant, qui lui a drastiquement diminué. Il y a facilement 2 fois plus d'élèves par classe qu'avant.
Cet argent n'alimente pas les salaires de plus de professeurs ou d'un personnel plus qualifié?
Non, pas du tout. Les profs ne corrigent même pas les copies eux-mêmes. Ils n'ont pas le temps. Le nombre d'élèves est devenu astronomique. Donc, ils ont des assistants.
Mais pourquoi, Cerise Maréchaux, dans le fond, les étudiants américains ne se révoltent pas davantage, puisque ils ont très bien compris que ces frais universitaires sont en partie une imposture?
Emmanuel, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, l'obligation de commencer à rembourser n'arrive que 6 mois après leur diplôme. Donc pendant leurs années fac, les étudiants, eh bien, ils ne se rendent pas compte de ce qui les attend. Ils ont 18-20 ans, ils goûtent à la liberté, aux fêtes, au sexe. Ils vivent complètement dans le présent. Et ils étudient aussi, beaucoup. Et puis, ces histoires de dettes, c'est bureaucratique, compliqué, angoissant. Ça les dépasse. Un autre facteur important, c'est que les étudiants s'identifient au prestige de leur université. Pendant 4 ans, c'est leur univers. Donc ils sont prêts à la défendre, comme ils défendent leur équipe de football. Dans ces conditions, vous comprenez, c'est compliqué de cracher dans la soupe. C'est la marque de l'université qui va tout leur apporter par la suite. Car on parle là d'universités de qualité, qui font des dépenses certes disproportionnées, mais qui ne réalisent pas de bénéfices sur le dos des étudiants. Alors que, en revanche, il existe aux États-Unis des établissements privés à but lucratif, hein, des machines à cash, qui sont au contraire de qualité médiocre.
Une de mes amies a entendu une pub pour l'Art Institute de San Francisco,
qui est une école d'art privée.
Et elle y a passé 2 ans avant d'apprendre que son diplôme, qui lui a coûté un bras, n'avait aucune valeur, alors que ça lui a été vendu comme un diplôme universitaire. Le mot « université » est carrément dans le nom de l'école, Art Institute University.
University of Phoenix Online.
L'université of Phoenix Online, c'est une fac privée lancée en Arizona. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous rendre dans le centre commercial d'une petite ville du Texas et dans les boutiques, vous trouverez University of Phoenix. Ces boîtes se servent des aides financières que les étudiants reçoivent de l'État. En tant qu'école privée, elles n'ont pas droit à des aides publiques, donc elles détournent littéralement l'argent des étudiants boursiers. Ces écoles privées à but lucratif sont vraiment douteuses.
Et pourtant, ces écoles douteuses ont poussé comme des champignons. Leur nombre d'élèves a triplé entre 1998 et 2008, sous les mandats de George Bush. C'est un vrai scandale, car elles accueillent 11% des inscrits dans le supérieur, mais captent 25% des aides fédérales via les bourses. Cherchez l'erreur. Ce qui veut dire que ces écoles privées, à but lucratif, sont largement financées par les contribuables. Alors Cerise Maréchaux, ces écoles sont-elles vraiment médiocres comme qualité ?
Eh bien c'est Justin qui va nous le raconter. Il a enseigné 1 an comme professeur dans l'une de ces écoles privées. Il a aussi enseigné dans d'autres établissements du supérieur, donc il peut vraiment comparer. Il préfère rester anonyme. Je l'ai rencontré dans un café branché à New York.
I was teaching art at that time.
Moi, j'étais prof d'art appliqué. J'enseignais une classe qui s'appelait « Introduction aux ordinateurs Macintosh et aux produits Apple ». C'est intéressant, hein ? Je n'avais pas le choix. Le projet final de la classe était imposé. Confier aux étudiants un budget virtuel pour acheter un ordinateur Apple. En gros, vous avez 4 000 $. Détaillez quel système d'édition numérique vous pourriez créer en utilisant essentiellement des produits Apple. Ce n'est pas un devoir académique, c'est juste de l'incitation à la consommation. Littéralement, leur tâche était d'aller sur le site d'Apple et de balader le curseur pour acheter des composants trop chers pour eux. On parle d'étudiants qui viennent de familles pauvres et on les poussait à acheter des objets hors de prix, bien au-dessus de leurs moyens, en creusant leurs dettes encore plus profond. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. En tant que prof, j'étais très mal à l'aise avec tout ça et ça m'a soulagé quand j'ai pu quitter cette institution.
Vous dites creuser encore plus la dette de ces étudiants déjà défavorisés financièrement. Qui étaient ces étudiants ?
Pour la plupart, des élèves issus de milieux défavorisés. Des gamins qui se retrouvent assez perdus après leur bac et ne savent pas où aller à la fac. Et un jour, dans le bus, ils voient une pub pour une école. Ils s'inscrivent, sans avoir fait de recherche. Et ces pubs donnent l'impression qu'il s'agit d'une vraie université. Mais les élèves réalisent trop tard qu'il s'agit d'un simulacre de fac. Et ils se retrouvent à payer très cher une éducation de piètre qualité.
Savez-vous combien payaient vos étudiants ?
Je pensais qu'ils ne payaient pas cher. Après tout, on était dans un coin paumé. Ce n'était pas une école réputée. Moi, j'étais jeune prof, ça ne m'inquiétait pas vraiment. Et un jour, j'ai entendu un étudiant dire combien il payait. Je ne me souviens pas du montant exact, mais je me suis dit « Oh mon Dieu, c'est tellement cher !» C'était presque autant que ce que j'ai payé moi, et je suis allé à une très bonne université. Ça leur coûtait aussi cher que s'ils étaient allés à Yale. J'étais atterré. C'est là que j'ai décidé de quitter cette école. Les responsables, c'est clairement l'administration, ces gens qui décident du fonctionnement de l'école. J'avais 5 classes différentes. Je ne connais aucun autre établissement où un prof avait autant d'élèves. Ils se fichaient bien de la qualité de l'enseignement. Ce qui les intéressait, c'était de faire le maximum de profit. Mais en tant que prof, même si on n'est pas d'accord, on ne peut pas abandonner des élèves en plein milieu du semestre. La seule chose que je devais faire, c'était leur dire de quitter cette école. C'est ça le conseil qu'on devrait donner à chaque étudiant. Mais en réalité, on ne peut pas vraiment faire ça. Donc c'est à nous de partir.
I think the two things that really made me think this feels like a scam.
Les deux choses qui m'ont fait flairer l'arnaque, c'est d'un côté le prix exorbitant de cette école, et aussi en matière de règlement intérieur. J'ai vu que le but d'une école à but lucratif, c'est de garder les étudiants. En réunion, on ne parlait pas de qualité de l'enseignement, on parlait méthode pour garder le plus d'inscrits possible, pour encaisser un maximum de frais de scolarité. Par exemple, si un étudiant était pris à tricher, dans une école normale, il serait puni ou renvoyé pour avoir enfreint les règles. Mais dans cette école, la direction disait « peut-être que si, que ça, donnons-lui une seconde chance et laissons-le repasser l'examen ». Le niveau attendu était délibérément bas et il était entretenu comme tel pour garder ces étudiants qui payaient au prix fort une éducation de seconde zone. Ça, c'est vraiment douteux. J'ai assez honte d'avoir participé à un de ces établissements.
Avez-vous le sentiment que certains de vos étudiants étaient particulièrement ciblés par l'école ? Parce qu'ils étaient en désarroi ou ils venaient de milieux défavorisés ?
Oui, beaucoup d'élèves avaient des dossiers assez mauvais. Mais apparemment, les notes n'étaient pas un critère d'admission. Il suffisait d'avoir le bac. Il n'y avait pas de processus d'admission rigoureux où les élèves n'ayant pas le niveau étaient refusés. Quiconque voulant entrer dans cette école pouvait entrer. Et je pense que pour certains élèves, ça leur semblait être la seule option. Ce qui est faux. En vérité, le problème, c'est que les élèves qui choisissent ces écoles n'ont pas la culture nécessaire pour savoir dans quoi ils s'embarquent. Ils ne savent pas qu'il existe des alternatives de qualité. Faire de bonnes études supérieures à un prix raisonnable aux États-Unis, c'est possible.
Alors vous, Chris, vous avez été expulsé de la fac à cause de vos résultats. Comment vous avez fait après ?
J'ai décidé de continuer mes études parce que si j'arrête, je serai bloquée dans le même boulot, sans avenir. Je n'avancerai pas. Donc j'ai décidé d'aller dans un community college et je paye beaucoup moins cher. À la fac, c'est 5 000 $ par semestre. Ici, c'est environ 1 000 $. Et c'est beaucoup plus ouvert, les étudiants ont tous les âges, certains sont en formation continue. Le choix de carrière est plus large qu'à l'université.
Donc, c'est dans un community college que Chris a pu reprendre confiance. Alors, précisons que ce sont des établissements d'État réputés, assez proches finalement des BTS français. En 2 ans, les étudiants obtiennent un diplôme professionnalisant et peuvent soit continuer dans une université classique, soit entrer directement sur le marché du travail, Cerise Maréchaux.
Et Chris, elle, a choisi un cursus d'interprète en langue des signes. D'ailleurs, elle devrait trouver un emploi assez facilement car Austin accueille l'un des plus gros instituts pour personnes sourdes aux États-Unis. Donc on le voit, les options pour faire des études supérieures ne manquent pas. Tout le monde peut décrocher un diplôme. Mais Emmanuel, est-ce vraiment souhaitable dans l'économie américaine actuelle ? C'est la question que se pose Ryan Bishop, ingénieur informatique.
Dans le temps, seulement une minorité de personnes allaient à l'université. Aujourd'hui, tout le monde comprend que si on ne va pas à la fac, ça sera difficile de bosser ailleurs que dans un fast-food. Mais puisque tout le monde se dit la même chose, il y a trop de diplômés sur le marché et pas assez de travail. C'est pour ça que la prochaine bulle est en train de se former. Regardez, les prix de l'immobilier étaient surévalués et cette bulle-là a éclaté en 2008. Il y a déjà des analyses qui disent que la prochaine bulle, le nouveau marché drastiquement surévalué, c'est celui de l'éducation supérieure, qui grimpe en flèche. Mais la valeur intrinsèque des diplômes obtenus, elle, est en chute libre, parce que tout le monde a un diplôme. Même les emprunts automobiles, qui en général ne dépassent pas 20, 30 ou 40 000 dollars pour un Américain moyen, eh bien, on voit un nombre hallucinant de défauts de paiement sur ces emprunts automobiles. Alors qu'à l'origine, ce sont des petits prêts, beaucoup plus faciles à rembourser qu'un emprunt immobilier ou étudiant. Les gens commencent à ne pas rembourser leurs prêts voitures. Qu'est-ce que ça va donner si les anciens étudiants ne sont plus capables de payer leurs dettes ? On sait aussi que les banques se revendent entre elles les dettes étudiantes, par exemple Wells Fargo à JP Morgan, parce qu'elles se disent que le débiteur n'est plus en mesure de rembourser. Donc ils se refilent la patate chaude avant qu'un effet domino fasse s'effondrer tout le système.
Et j'imagine que d'une banque à une autre, par exemple, les taux d'intérêt peuvent
peuvent augmenter sans que les personnes se rendent compte.
More people qualify for variable.
La plupart des gens obtiennent des taux d'intérêt variables. C'est comme ça que la crise des subprimes a éclaté, quand tant de personnes se sont retrouvées en banqueroute et expulsées de chez elles. Ils avaient acheté leur maison avec un prêt à taux variable, et quand les taux d'intérêt ont augmenté, leurs traites ont grimpé en flèche. Beaucoup de gens ne peuvent pas supporter de tels changements, et se sont retrouvés à la rue quand la banque a repris leur maison. Donc c'est juste une question de temps avant que la prochaine bulle éclate.
Ce n'est pas seulement Ryan qui le dit, mais aussi de nombreux économistes réputés, dont le prix Nobel Joseph Stiglitz, excusez du peu. Il se dit effaré de voir les plus pauvres sacrifiés au nom du rêve américain et l'avenir de tout un pays menacé. D'autant que selon lui, la dette étudiante pèse sur l'économie réelle du pays, notamment le marché immobilier.
Alors si l'on considère l'ensemble des étudiants américains qui s'inscrivent à la fac après le lycée, eh bien 6 ans plus tard, seulement 56% d'entre eux ont obtenu un diplôme, ce qui veut dire que presque la moitié des étudiants abandonnent leurs études sans avoir rien obtenu. Mais là aussi, ces chiffres cachent de grandes disparités. Ce sont les plus vulnérables au départ, notamment les Afro-Américains, qui arrivent le moins à finir leurs études, alors qu'ils se sont le plus endettés.
Ouais, on le voit bien, Emmanuel, la situation est devenue intenable, choquante, et suscite un élan de révolte. Dans la rue, comme sur les campus, la résistance s'organise autour de groupes certes encore très minoritaires, comme Strike Debt et Debt Collective. Née après 2011, dans le sillon du mouvement anticapitaliste Occupy Wall Street, vous vous souvenez ? Alors grâce à des dons sur Internet, Strike Debt a racheté plusieurs millions de dollars de dettes détenues par d'anciens étudiants de ces for-profit colleges, dont Ryan et Justin ont parlé, pour les effacer. Et selon eux, ce n'est qu'un début. En 2014, le collectif Strike Debt, toujours, a aussi joué un rôle clé dans la condamnation par la justice fédérale des établissements Corinthian Colleges. C'est le plus gros et le plus célèbre groupe d'écoles privées à but lucratif qui a été poursuivi par le Bureau de protection financière des consommateurs, qui a été jugé pour tromperie des étudiants et incitation prédatrice au surendettement. Et ces écoles ont depuis bel et bien fermé.
Oui, donc quand même les choses changent, les choses bougent, surtout dans la foulée de cette condamnation, toujours grâce au soutien de Strike Debt, donc, qui veut dire littéralement la grève de la dette. 1300 anciens élèves ont vu leur dette annulée par le département de l'éducation. C'est complètement historique aux États-Unis. La dette étudiante n'est pas annulable, vous nous l'avez expliqué en début d'émission, Cerise, même en cas d'insolvabilité. En principe, on emporte sa dette jusque dans le cercueil.
Alors sauf s'il est prouvé que l'école a menti aux étudiants sur la qualité du cursus ou leur chance de trouver un travail. Donc pour l'instant, 1300 personnes ont obtenu gain de cause, mais le nombre de victimes de cette arnaque à l'éducation for profit dépasse les 500 000. Or le département de l'éducation est catégorique, il refuse d'annuler plus de dettes.
Le mouvement Strike Debt en appelle donc carrément à la grève des surendettés. Plusieurs centaines de personnes ont déjà publiquement arrêté de rembourser. Et le mot d'ordre, c'est « ma dette, c'est leur profit ».
Qui profite de la dette étudiante ? J'ai demandé à Josué ce qu'il en pensait.
Banks.
Les banques, les grosses banques, Wall Street.
Pas que les banques, l'État fédéral profite à hauteur de plus de 40 milliards de dollars par an de ce que les étudiants remboursent en taux d'intérêt au gouvernement fédéral.
L'État profite du système, bien sûr. Toutes les personnes au pouvoir se font de l'argent sur le dos du système. Les 1% ont le pouvoir aujourd'hui. Je veux dire, le système profite aux 1%.
Vous seriez prêt à arrêter de rembourser, faire la grève de la dette, dans l'espoir que la bulle éclate et que le système s'effondre ?
Ça serait super. Je pense que quand les gens s'unissent et qu'un mouvement gagne assez de force, ça devient plus facile de le rejoindre. À titre personnel, je ne pense pas être assez radical. Je ne me vois pas demain dire « Stop, j'arrête de rembourser définitivement ». Mais j'entrevois un mouvement plus large, une réforme du financement de l'éducation supérieure. De toute façon, le système actuel va droit dans le mur. Il va y avoir trop de monde, incapable de rembourser l'argent emprunté, et je crois en une réforme, un changement, un élan qui aboutira à l'effacement de notre dette.
Alors, est-ce que les vœux de Josué vont être exaucés, Cerise Maréchaux ?
Pour l'instant, on en est loin. En plus, n'oublions pas, Emmanuel, qu'on est en Amérique. Être un minimum endetté, c'est valorisé par le système consumériste et financier. Pour avoir un bon credit score, il faut forcément être endetté. Mais pour le mouvement anti-dette, l'union et surtout le nombre font la force. Et si les 43 millions d'Américains qui se sont endettés pour étudier arrêtaient leur paiement ? Quel pouvoir auraient les banques, les organismes de collecte, Wall Street ? D'ailleurs, 15 millions d'entre eux, dont Josué, sont déjà en retard dans leur remboursement.
Et pourtant, Cerise, il existe des programmes actuellement pour alléger la dette des étudiants, les aider à rééchelonner. Est-ce que ce n'est pas aussi tout de même un peu aux étudiants de se responsabiliser finalement ?
C'est vrai, des programmes fédéraux existent déjà pour réduire sa dette étudiante et c'est indispensable de les connaître. Ce sont des plans de remboursement en fonction du salaire ou du niveau de vie. Il y a aussi des plans dits de service public. En gros, si vous travaillez dans une ONG ou un hôpital à caractère social ou si vous êtes prof dans une école de zone défavorisée pendant 10 ans, cela efface le restant de votre dette, mais cela ne concerne que l'argent dû au gouvernement, pas au secteur privé. Et il faut impérativement que pendant ces 10 ans, vous ayez payé rubis sur l'ongle avec zéro retard. Ouais. Donc des conditions drastiques et pas très lisibles. D'ailleurs, seuls 6% des endettés tirent des bénéfices réels de ces plans d'allègement de leur dette.
Donc aujourd'hui, finalement, la balle est dans le camp des candidats à l'élection présidentielle, puisque Barack Obama ne s'est pas vraiment emparé du sujet pendant ses deux mandats.
Barack Obama, en fait, a souvent plaidé la cause des étudiants surendettés, mais il n'a pas généré de réelles réformes, comme pour le système de santé. La crise de la dette étudiante est devenue un vrai sujet de campagne, cependant, mais loin derrière la sécurité, l'immigration et l'emploi. Bernie Sanders, souvent qualifié de socialiste, avait promis lors des primaires la gratuité de l'université publique. Hillary Clinton, aujourd'hui face à Donald Trump, reprend l'idée, mais avec des limites. Il faut que la fac en question soit dans l'état de résidence de l'étudiant et ça ne concerne que les plus modestes. On le voit bien, pour l'instant, ce ne sont que des promesses, mais Brooke, elle, veut croire que des solutions sont possibles.
Qui sait, peut-être que quand mes enfants iront à l'université, l'enseignement supérieur sera gratuit. Mais bon, on ne peut pas trop compter là-dessus. De toute façon, on leur dira de bien réfléchir à leurs études. Si je pouvais parler à la jeune fille que j'étais il y a 9 ans, je lui dirais... Peut-être que tu peux attendre un peu. Ou alors, ok, va à la fac, mais réfléchis bien où tu vas. As-tu besoin d'aller dans une fac privée ? Peut-être peux-tu t'inscrire dans une fac locale et payer beaucoup moins cher. J'aurais aimé réfléchir à tout ça un peu plus sérieusement. Tout le monde nous dit qu'il faut aller à l'université, sinon on n'arrivera à rien. Mais ce n'est pas forcément vrai. Je veux dire, c'est dingue quand même qu'il faille économiser dès la naissance pour espérer décrocher un boulot correct. Je ne pense pas que ce soit la seule façon d'être heureux.
Surendettement des étudiants, l'envers du rêve américain. C'était un reportage de Cerise Maréchaux, émission reportage à réécouter sur RFI.fr, bien sûr, à la page des 7 milliards de voisins, à la réalisation et au mixage, Romain Dubrac.
I need your FAFSA paperwork. I need your parents' tax information from 2015, 2014, 2013. A non-refundable check for 125.
Tell you what I've been through when it come to Sally. She called me at least twice a day. She want our money badly. Calling me from different numbers. Ooh, she thinks she slick. But I got them all memorized. I hit ignore quick. Needed tuition. Needed room and board. Had to pay for books. So I took out loans to feed the boy. Graduated. Wasn't making quite enough to pay him back. Went in default. Messed my credit up. Check my Equifax. Huh. I ain't proud of that, I'm more proud of that, I ain't drowning that. I got two jobs, really got on my grind. No time to whine, I can't ride the pine. In the game right now, my time to shine. Started paying them loans back one at a time. Got them down, 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 down. Till I paid them all off, peace sign.
For those who doubted me, yeah, this is payback. And I've been on my grizzly, yeah, since way back. No sir, and I don't drive a Maybach. But guess what I did?
I finished paying, selling, Maybach, Maybach. Maybe I finished paying, selling, maybe I finished paying, selling.
kept me late. Walk inside the kitchen, grab a dish, and then I fix a plate.
Red beans and rice on a Monday.
Then I sit down on the sofa, grab the remote, and turn on the news. Open up my laptop, kick, 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 kick off my shoes. I see that I got an email from Sally Mae. Did another month pass that I forgot to pay? Oh no, hope this email ain't wrong. It say congratulations on paying back your student loans. I took a screenshot, boy, I had to save that. Then I hit my homeboy like,
I finished paying selling, maybe, maybe. I finished paying selling, maybe, maybe. I finished paying selling, maybe, maybe. I finished paying selling, maybe, maybe.
Look, is it $40,000? $50,000, $60,000, or maybe it's more. Is it $80,000, $90,000, $100,000? How much do you owe?
Demain, 7 milliards de voisins, à l'occasion des rencontres Campus France, je recevrai des recteurs d'universités africaines. Les facs peuvent-elles sortir de leur marasme sur le continent? Qu'attendent réellement les étudiants africains? Quelle collaboration peut-il y avoir entre facs françaises et facs africaines? On en parle demain chez 7 milliards de voisins.